Vox in deserto présente le concert spirituel du mois de Marie. Rosa Mystica, méditation sur les litanies de la Sainte Vierge.
Patriarcharum,
ora pro nobis,
regina. Regina prophetarum,
ora pro nobis.
Regina apostolorum,
ora pro nobis.
Regina martyrum,
ora pro nobis.
Regina confessorum,
ora pro nobis.
Regina virginum,
ora pro nobis.
Regina sanctorum omnium,
ora pro nobis.
Regina sine labe originali concepta,
ora pro nobis.
Regina in celum assumpta, Regina sacratissimi rosari,
ora pro nobis.
Regina familie,
ora pro nobis.
Regina pacis,
ora pro nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
pace nobis tu.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Accordez-nous, Seigneur notre Dieu, la grâce de jouir constamment de la santé de l'âme et du corps. Et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, d'être délivrée de la tristesse présente et de goûter l'éternelle félicité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vise et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
D'origine mystérieuse, les litanies de la Sainte Vierge sont rattachées au sanctuaire de Lorette en Italie. Cette basilique renferme la maison dans laquelle, à Nazareth, la Sainte Famille a vécu. Au lieu de pèlerinage, c'est autour de la Sainte Maison qu'ont jailli les litanies de la Sainte Vierge, que l'on appelle également litanie laurettanée, les litanies de Lorette. C'est le pape Sixte V, originaire de Grottamare, non loin de Loreto, qui les connaissant depuis son enfance, les approuva officiellement pour l'Église universelle en date du 11 juillet 1587. Si les papes Benoît XIII en 1728 et Pie VII en 1817 leur rattachèrent des indulgences, les litanies de la Sainte Vierge ont connu quelques ajouts en raison tout d'abord de l'éclaircissement apporté par les dogmes. C'est ainsi qu'ensuite du dogme de la conception immaculée de la Sainte Vierge, le 8 décembre 1854, le bienheureux pape Pie IX approuva l'ajout de l'invocation « Regina sine labi originali concepta » Reine conçue sans la tâche originelle, priez pour nous. De même, la veille de la proclamation du dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge, le 31 octobre 1950, le vénérable pape Pie XII ajouta aux litanies « Regina in cellum assumpta » Reine élevée au ciel, priez pour nous. Plus récemment, pour couronner les développements ecclésiologiques du Second Concile du Vatican et le rôle qu'y tient la Sainte Vierge, le pape Saint Paul VI fit ajouter aux litanies l'invocation « Mater Ecclesiae, Mère de l'Église, priez pour nous. Auparavant, le pape Léon XIII, appelé le pape du Rosaire en raison des nombreuses encycliques qu'il y consacra, fit ajouter en 1883 la mention Regina Sacratissimi Rosari, Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous, puis en 1903 l'invocation Mater Boni Consilii, Mère du Bon Conseil, priez pour nous. C'est également le pape Léon XIII qui demanda à ce qu'à la fin du chapelet, le peuple chrétien lui ajoute les litanies de la Sainte Vierge. C'est la raison pour laquelle il est bon, en ce mois de Marie, de les redécouvrir. La deuxième raison pour laquelle les pontifes ajoutèrent des invocations aux litanies tient au danger nécessitant l'intervention de celle qui, en mère puissante, est la consolatrice des affligés, le salut des infirmes, ou encore le refuge des pécheurs. C'est ainsi qu'en action de grâce, pour l'improbable victoire que fut la bataille de Lépante, le pape Saint Pie V ajouta l'invocation « Auxilium Christianorum, secours des chrétiens, priez pour nous ». Dans les tourments de la Première Guerre mondiale, le pape Benoît XV, en 1915, ajouta l'invocation « Regina Pacis », qui conclut les litanies « Reine de la paix, priez pour nous ». Plus récemment, face à la destruction de la famille, le pape Saint Jean-Paul II ajouta aux litanies l'invocation « Regina Familiae, Reine des familles, priez pour nous ». Ces litanies ont un ordre. Après l'invocation de la Trinité Sainte, elle développe à partir de son nom, Sainte Marie, la maternité, puis la virginité, jusqu'à développer la royauté de Notre-Dame. Parce qu'en maison d'or, elle est la mère du Christ, elle est par ce fait même la mère de Dieu, et donc la mère du Créateur, comme la mère du Sauveur. Parce qu'elle est mère, tout en demeurant vierge, l'Arche d'Alliance est la Vierge des Vierges, une mère très pure, une mère sans tache, une mère très chaste. Là où l'archange Gabriel saluait en elle la pleine de grâce, les litanies invoquent en Sainte Marie la mère de la grâce divine. Là où la Sainte Vierge, dans son Magnificat, reconnaissait « Toutes les générations me diront bienheureuse », les litanies lui répondent en écho filial, l'acclamant en mère admirable, vierge vénérable, comme en vierge digne de louange. Enfin, les litanies invoquent la reine élevée au ciel qui agit ici-bas en mère puissante, clémente et fidèle. Couronnée au ciel, les litanies l'acclament non sans protocole en reine des anges, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs, des confesseurs de la foi, des vierges. En un mot, en reine de tous les saints. En ce mois de mai, célébrons la fleur d'entre les fleurs, celle que les litanies invoquent en rosa mystica, rose mystique, rose du mois de mai, priez pour nous. Thank you. Ce chant nouveau du mois de Marie nous place dans un jardin au centre duquel nous contemplons celle que Saint Bernard nomme Flos Florum, la fleur d'entre les fleurs. Écoutons-le effeuiller la mystique de cette rose du mois de mai.
Il est dit de Marie, dans les Saintes Écritures, qu'elle fut le jardin fermé de Dieu. C'est dans ce jardin que le Seigneur planta toutes les fleurs qui ornent l'Église, et entre autres, la violette de l'humilité, le lys de la pureté et la rose de la charité. La rose est vermeille. C'est pour cela que Marie est appelée rose, à cause de l'ardente charité dont son cœur fut toujours enflammé envers Dieu et envers nous. Car la couleur vermeille ou de feu indique l'amour ou la charité.
La rose est l'un des plus anciens symboles chrétiens, peut-être le plus méconnu. On le trouve sculpté en rosier ou en couronne sur les tombes des premiers chrétiens. C'est pour eux la fleur de l'espérance, le signe du paradis retrouvé. À leur suite, les pères de l'Église reconnaissent en la Vierge Marie la rose de Saron, à laquelle le bien-aimé du Cantique des Cantiques compare sa promise. Comme la rose au milieu des épines, ainsi est ma bien-aimée parmi les jeunes filles, chante-t-il. Si le mystère de la Sainte Vierge se donne à voir dans la beauté de cette rose, c'est qu'elle fleurit au-dessus d'un buisson aux nombreuses épines. C'est là tout le paradoxe de sa beauté. Comment une fleur si belle et délicate peut-elle surgir d'un buisson de ronces ? C'est que les épines ne sont survenues qu'en conséquence du péché, commente Saint Basile. Et Saint Ambroise dit entrevoir alors le mystère entourant la nativité de Notre-Dame. Avant que l'homme ne chute, la rose était née sans l'épine, déclare-t-il. Approfondissons à l'école de Saint Bernard de Clairvaux la mystique de cette rose.
Ève fut une épine, Marie une rose. Ève fut véritablement une épine. Elle piqua son mari jusqu'à lui donner la mort. Et elle plongea dans le cœur de tous ses enfants l'aiguillon du péché. Pour faire éclater sa gloire et pour renverser la sagesse humaine, Dieu a daigné naître d'une femme vierge, issue de la tige épineuse des pères, prendre un corps afin de devenir semblable à l'homme, de guérir le contraire par son contraire, d'arracher l'épine vénéneuse et de déchirer avec puissance la crédule de la condamnation du péché. Par ce sexe féminin, l'humilité se montre avec éclat. La gloire et la majesté d'une vierge nous vient en aide et la grâce chasse le péché. Ève fut donc une épine et Marie une rose. Ève, une épine en blessant. Marie, une rose, en adoucissant les sentiments de tous les hommes. Ève, épine en donnant à tous la mort. Marie, rose, en rendant à tous le salut. Marie fut une rose blanche par la virginité, rouge par la charité, blanche quant au corps, rouge quant à l'âme. Blanche par la pratique de la vertu, rouge par son triomphe sur les vices. Blanche par la pureté de ses affections, rouge par la mortification de la chair, blanche par l'amour de Dieu, rouge par sa compatissante à l'égard du prochain.
En invoquant la Sainte Vierge en rose mystique, les litanies se font l'écho du mystère entourant sa conception immaculée. Sous ces images, rose mystique, rose sans épines, la théologie symbolique livre ses premiers mots. En écho, les litanies de la Vierge portent en elles le fruit de l'éclaircissement progressif de ce mystère, jusqu'à accompagner la proclamation solennelle du dogme le 8 décembre 1854. À l'ancienne et vénérable rose mystique, les litanies en viennent à invoquer cette mère très pure qui apparaît en mère sans tache et se révèle en refuge des pécheurs jusqu'à être couronnée, reine conçue sans la tache originelle, priez pour nous. En apparaissant à Lourdes en 1858, la Sainte Vierge s'approprie les mots mêmes de la proclamation dogmatique « Je suis l'Immaculée Conception ». Si en cela elle fait du neuf avec de l'ancien, elle reprend également le langage mystique de la rose sans épines. Lorsque Sainte Bernadette paraît sur les bords du Gave le 11 février 1858, elle cherche à traverser le canal du moulin de sa vie afin de passer sur l'autre rive, celle de Massabielle. L'imposante roche étant l'endroit où ce canal rejoint le Gave, elle se résout à le traverser afin de rejoindre ses compagnes. La voici sur la pointe de l'île du Chalet, ôtant son premier bas de laine. Surprise par le bruissement d'un buisson, elle lève la tête. Face à elle, l'obscure grotte présente, au pied d'une sorte de niche rocheuse, l'agitation d'un épineux buisson. Ôtant son second bas de laine, un nouveau coup de vent fait virevolter son capulet, tandis qu'alentour, aucun arbre ne semble décidé à bouger. C'est alors qu'au-dessus de cet épineux buisson, Bernadette voit poindre une lumière. Celle-ci va grandissant jusqu'à esquisser un sourire. De ce lumineux sourire apparaît de plus en plus distinctement le contour d'une jeune fille qui, se présentant à son regard, lui fait signe de la rejoindre sur l'autre rive. Vêtue d'une robe immaculée dont les nombreux plis sont tenus par une ceinture bleue s'ouvrant en deux bandes sur le devant, la jeune fille au sourire se tient altière et belle du haut de la niche rocheuse. Les pieds, comme posés sur cet églantier, cachent leur nudité en présentant sur chacun d'eux une rose épanouie. C'est le signe que l'abbé Peyramale demandera à Bernadette de transmettre à sa mystérieuse dame, faire fleurir l'églantier de Massabielle. Si elle ne répondit à cette demande que par un sourire, c'est peut-être qu'en rose mystique, les fleurs sur ses pieds avaient devancé la demande de monsieur le curé. Mais de quelle couleur sont donc ces roses ? Bernadette ne répond pas tant par une couleur que par une association. Les roses sont assorties à la chaîne du chapelet que la jeune fille en prière passe entre ses doigts. L'or de ces roses, fleurissant l'églantier de Massabielle, nous renvoie donc au rosaire. Avant d'être un collier de perles ou de grains, le chapel, qui donna son nom au chapelet, est une couronne tressée de roses que l'on offrait à la Vierge. D'ailleurs, les premières communiantes de jadis se souviennent peut-être qu'après les vêpres, elles chantaient agitant leur couronne de fleurs à la Vierge Marie « Reçois ma couronne, je te la donne, au ciel, n'est-ce pas, tu me la rendras ?» Le chapel étant tressé de roses, on l'appela également rosaire. Des roses cachant ses pieds à son rosaire, Notre-Dame de Lourdes se donne à voir en rose mystique à une époque qui ne tardera pas, par la voix du pape Léon XIII, à être couronnée, reine du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous. L'invocation date de 1883, l'année même où débutèrent au sanctuaire de Lourdes la construction de ce qui deviendra la basilique du Rosaire. Sur le fronton de sa porte, autour de la Vierge donnant par son fils le rosaire à saint Dominique, on peut lire cette citation du livre de l'Ecclésiastique « Quasi rosa plantata super rivos aquarum fructivitate » « Comme la rose plantée sur la rive des eaux, portait du fruit. » Prions pour que plantée près de la source de Massabielle, nous puissions porter du fruit et répondre dans ce monde la bonne odeur du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors que notre méditation touche à sa fin, passons de Lourdes à Fatima, afin d'invoquer la reine du Très-Saint-Rosaire que nous avons fêtée il y a peu, le 13 mai dernier.
Yeah.